Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, nous sommes réunis autour des micros de Canal Académie pour fêter la sortie d'un livre beau par ses textes, beau par ses illustrations, Cévennes, de la mer à la lune, paru aux éditions Alcide. Les textes sont signés Frédéric Hébrard, André Chanson, Catherine Velle, les photographies Jean-Louis Aubert. Cévennes, de la mer à la lune, c'est l'évocation d'une terre de lumière, fief de l'immortel André Chanson. André Chanson qui fut élu à l'Académie française le 17 mai 1956 par 18 voix, celle entre autres de Jules Romain, André Mauroy et Georges Duhamel, au fauteuil du baron Seyer. André Chanson, auteur de « Roule bandit »,« Les hommes de la route »,« La galère »,« Quatre mois »,« Le chiffre de nos jours »,« La superbe »,« La tour de Constance », pour ne citer que quelques magnifiques récits. Cévennes, de la terre à la lune, raconte l'histoire d'une terre de résistance, de transmission des savoirs. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui, autour des micros de Canal Académie, la présence de deux générations issues d'André Chanson. Frédéric Hébrard, fille d'André Chanson. Frédéric Hébrard, écrivain, grand prix du roman de l'Académie française en 1987 avec votre livre, Le Harem. D'autre part, votre ouvrage, Les Châtaigniers du désert, Frédéric Hébrard, vient d'être adapté et diffusé sur France 3. Le DVD de ce film vient également de sortir. À vos côtés, votre époux, Louis Veil. Louis Veil, comédien, auteur, scénariste, nous fait l'amitié d'être avec nous dans ce studio de Canal Académie. La deuxième génération après André Chanson est également présente à Canal Académie en la personne de la petite fille d'André Chanson, Catherine Veil. Catherine Veil, fille de Frédéric Hébrard et Louis Veil. Votre dernier ouvrage, Catherine Veil, Les Sœurs Chocolat, vient d'être retenu comme le livre de l'année aux États-Unis par la Fédération des Alliances Françaises. Donc, une bien jolie réunion familiale autour de la personnalité de votre père, grand-père, beau-père, André Chanson, dont nous retrouvons de très beaux textes dans ce dernier livre, Cévennes, de la mer à la lune. Un livre paru aux éditions Alcide, auquel vous avez donc collaboré tous les trois. On y trouve par exemple des phrases telles que « Je suis de ce pays, autant qu'on peut l'être, je tiens cette terre par les cimetières et les sillons ». Une phrase signée André Chanson, n'est-ce pas Frédéric Hébrard ?
Oui, et ces paroles de mon père, je puis les dire à mon tour. Mais vous savez, pendant près d'un demi-siècle, je n'ai pas osé aborder les Cévennes dans mes livres, et je n'ai pas osé raconter ce qui était pour moi le royaume de papa.
Pourquoi ?
Mais je ne sais pas. Il a fallu, hélas, que je perde mon père et ma mère pour comprendre que c'était à moi de parler et de continuer la tradition et l'amour de ce pays.
C'était quelque chose à laquelle il ne fallait pas toucher à partir d'un certain moment ?
Ah non, pas du tout. C'était à lui, je n'y pensais pas. Je ne me disais pas, tiens, j'aimerais bien. Et puis, j'ai commencé, je faisais des allusions dans La Citoyenne, dans la chambre de Goethe, parce que c'était des choses qui se passaient dans ma propre vie, donc je les relatais. Mais ils n'étaient plus de ce monde quand j'ai publié Félix, fils de Pauline, qui est l'histoire de mon grand-père que je n'ai pas connu, que je prenais quand j'étais petite pour le dieu Némosus.
Votre père, nous confiez-vous dans ce livre, vous avez offert l'année de vos 4 ans, la Bible et les contes des mille et une nuits.
Oui, la Bible c'était pour que je sois sage et les mille et une nuits pour que je sois folle, je pense. C'était pas « tu vas continuer à travailler, à écrire comme moi ». D'abord, il savait pas que je deviendrais écrivain. Et un des regrets de ma vie, c'est qu'il n'ait pas vu sa petite fille Catherine Veil devenir écrivain. Et souvent, je suis triste qu'il ne lise pas ce qu'elle écrit. Et je pense à cette ravissante photo où, le jour de sa réception à l'Académie, il traverse la cour de l'Institut en grand costume, avec l'épée, la cape, tout ça. Et il y a un petit bout de chou tout petit, habillé de rose, avec un petit béret, des petits gants blancs. Et c'est Catherine qui marche vers l'écriture.
Et quand vous aviez l'âge de Catherine, votre père vous avait fait prendre place sur un rocher de granit, écrivez-vous, qui semblait jailli à l'instant de l'herbe rase, et il vous dit « te voilà assise sur la ligne de partage des eaux ». C'était important ?
Oui, parce que la ligne de partage des eaux, elle coupe un peu le pays en deux, puisqu'il y a des gouttes qui vont vers la mer intérieure, la mer des origines, la mer gréco-latine, et puis il y en a d'autres qui vont vers l'Atlantique, et c'est tout à fait différent. Et moi, ça me paraissait terrible que cette petite goutte soit obligée de choisir.
Mais est-ce qu'elle choisit ?
Ah, ben alors si elle ne choisit pas, c'est peut-être encore pire, parce que c'est une chose imposée. Ça, c'est mon côté sévenol qui...
Mais non, mais notre existence même n'est pas le fait d'un choix. Nous sommes arrivés sur Terre, il n'y a pas eu de choix de notre part. C'est en considérant l'environnement, à commencer par les parents, qu'on commence à découvrir ce que peut être le choix.
La liberté dans le choix ? La liberté dans le choix ou dans l'acceptation du choix imposé ?
La liberté, ben, ça dépend de la structure, je crois, de chaque individu. Choisir, pour moi, c'est éliminer quelque chose. Donc, les choix, pour moi, sont faits sur du négatif. C'est-à-dire, ça, je n'en veux pas. Pour le reste, je m'en accommode. Je porte une attention très grande, quotidienne, à ce qui se passe dans la vie. C'est pour ça que, quand les gens disent « Oh, c'est toujours la même chose dans la vie avec la même personne » ou tout ça, je reste éberlué. Parce que, pour moi, c'est constamment... quelque chose de nouveau. Chaque jour m'apparaît comme quelque chose de nouveau. Et donc, le choix n'est pas « est-ce que je vais faire ceci ou cela ?» mais « je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela ». Voilà, pour moi, comment je suis structuré. Ce qui m'aide à vivre, je dois vous dire. Parce que j'ai moins de but, de destination, que je n'ai d'intérêt au chemin que je parcours. Car avec le chemin que je parcours, je ne me trompe pas sur ce que je vois, ce que je veux voir. Si vous voulez, quand on voit loin, c'est un engagement qu'on prend et je suis structuré de manière à ne prendre que des engagements que j'ai choisi de prendre.
Et quand la petite fille que vous étiez, Frédéric Hébrard, à ce moment-là, à côté de votre père, et que votre père vous explique que c'était là que la petite goutte d'eau tombée du ciel devait choisir, vous avez dit
« Moi, je veux tout. Je veux tout, mais...
C'est une parole de Thérèse de Lisieux,
absolument.
Ça, la petite
mais
fille.
Mais je trouve la réflexion de Louis très protestante, et en effet, moi, je veux tout comme Thérèse de Lisieux. Alors, vous voyez, c'est ça qui est merveilleux dans le partage des personnalités, et rien n'est plus intéressant que la différence qu'on a avec l'autre.
Je crois que ça participe aussi à l'équilibre que nous avons l'un et l'autre, je veux dire l'équilibre dans notre vie commune.
Oui, tu es catholique et tu penses protestant, et moi je suis protestante et je pense comme les saintes.
C'est magnifique tous ces mouvements. Votre maman aussi vous a appris les Cévennes.
Ah oui, maman, alors elle a été franchement libre penseur. Et maman aimait beaucoup la nature, elle me faisait marcher, elle m'a fait marcher comme un fantassin quand j'avais 4 ans, c'était terrorisant. Elle m'a appris les fleurs, elle m'a appris le renard, elle m'a fait prendre garde de ne pas m'asseoir là où il y avait un serpent. Et puis elle était très jolie, maman, et c'était un plaisir de la suivre dans la nature. Mais quand je lui disais « c'est le dieu de ma Bible », parce que j'avais quand même pas que les mille et une nuits, j'avais la Bible. Elle était un petit peu ennuyée, maman, quand je lui disais « c'est le Dieu de ma Bible qui a fait tout ça », alors elle me donnait des explications.
Voilà d'ailleurs avec quels mots vous évoquez votre mère, Lucie Mazurik, ainsi que votre père.
Maman reste silencieuse avant de me dire qu'il a été aidé par un monsieur Fabre qui s'occupa de planter les arbres des Cévennes en un temps où elles étaient plus pelées que la lune, et par un monsieur Flao qui se chargea des fleurs du jardin. Maman est libre penseur, avec ferveur et piété. Mes parents sont ce qu'on appelle des protestants sociologiques, des protestants qui ne vont plus au temple mais restent protestants, comme des juifs qui ne vont plus à la synagogue restent enfants d'Israël pour l'éternité. Papa, lui, me raconte l'épopée des ancêtres qui taillèrent le châtaignier, arbre de vie, soignèrent le mûrier de Chine, arbre d'espoir, montèrent la bonne terre à même leur dos, construisirent les traversiens ou bancelles pour la retenir, ouvrirent les béales à flanc de montagne afin de semer le blé et le seigle en altitude. D'année en année, mon père m'ouvre de nouvelles portes, me révèle de nouveaux secrets.
Louis Veld, dans un texte d'André Chanson.
En parlant de Lucie Mazurik, sa femme, il écrit « J'ai passé ma vie à côté d'une compagne à l'âme stoïque. Ce stoïcisme l'a sans doute entraînée à se croire agnostique alors qu'elle possède toutes les vertus d'une âme religieuse. De toute façon, quelle bonne compagne pour la vie et pour l'éternité. » Et on voit bien qu'André Chanson avait le souci de l'éternité, n'est-ce pas ?
C'est un socle magnifique que la compréhension, l'entente, le respect mutuel entre deux êtres qui vous donnent la vie.
Oui, le respect, l'amour, la compréhension et la personnalité de chacun qui fait que de temps en temps, on n'est pas d'accord.
Vous savez, je ne suis jamais revenu de la manière dont j'ai été acquis, j'allais dire, aimé, reçu en tout cas par la famille Chanson. Je n'en suis toujours pas revenu, puisque tant de choses devaient nous séparer. Le début de l'entretien avec André Chanson, faut dire qu'il était minuit moins le quart, que j'étais maquillé, je sortais du théâtre où j'avais joué une pièce du douanier Rousseau, dans ce lieu étrange qu'est le petit palais, plein de longues avenues intérieures, n'est-ce pas ? Et j'arrive, et au moment où Frédéric m'introduit chez parents, on l'appelle parce qu'elle répétait, au fond, dans le grand salon, « Frédéric, c'est à toi. » Et je me trouve en face d'André Chanson, dont vous connaissez la physionomie. Et quand il la voulait sévère, il savait bien la faire. Il était debout de l'autre côté de son bureau. Madame Chanson était assise sur le grand canapé. Et André Chanson me dit, me désignant un siège, « Monsieur, je vous écoute. » Alors, j'aime autant vous dire que ce que j'avais préparé, le manteau que j'avais acheté avec Frédéric, il me disait « si tu peux montrer la doublure de ce manteau à maman, ça sera très bien ». Eh bien, je vais vous dire, André Chanson a fait les demandes et les réponses en me voyant bafouiller. C'est lui qui a dit « vous allez me dire que la profession dans laquelle vous vous engagez, vous allez me dire que vous êtes aîné de 6 enfants, etc. » Et ça s'est résolu comme ça. En quelques minutes, simplement, il m'a dit « nous aimerions savoir la qualité de vos sentiments pour notre fille. » Et d'une voix éteinte, j'ai dit « très fort, monsieur, très fort ». Et il m'a dit « à partir de demain, si vous voulez venir déjeuner à la maison ». Voilà, ça s'est vraiment passé comme ça.
Frédéric Hébrard, vous vous êtes posé souvent la question « mais à quel moment ai-je su que je descendais des Camisards ? À quel moment ai-je su que je n'étais pas baptisé ?» C'était des phrases qui vous angoissaient quelque part, qui correspondaient à des interrogations.
Je ne comprenais pas pourquoi toutes mes petites amies catholiques ou protestantes faisaient leur première communion. Et puis, dans mon enfance, c'était pas l'aube qu'on voit maintenant, c'était la robe en organdi, en plumetis, même chez les protestantes où c'était un petit peu plus sévère. Je comprenais pas très bien et je comprenais pas pourquoi je n'étais pas baptisée et mes parents disaient « elle choisira plus tard ». J'ai pas tout de suite compris que c'était un cadeau qu'il me faisait et que c'est extraordinaire que ça m'ait donné la joie merveilleuse d'avoir ma fille pour marraine et mon petit-fils pour parrain. Et puis de le faire en toute connaissance des choses. Et je les sentais en plus très 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 protestants parce qu'on me disait, nous habitions chez le roi à Versailles puisque papa était conservateur adjoint du château. Et nous habitions dans les appartements qui furent ceux de Monsieur de Colbert.
Très paradoxal, voilà, pour la petite parpaillotte, et petite souvent, soyeuse de Dieu que vous étiez.
Souvent, comme il luttait beaucoup contre le fascisme et qui était directeur du journal Vendredi avec Jean Guéhenno et André Violis, j'étais seule le soir dans cet immense appartement qui était charmant quand on recevait, mais absolument terrorisant quand on était toute seule.
Et voici ce que vous écrivez dans le livre « Cévennes de la mer à la lune » paru aux éditions Alcide.
Je traversais le grand salon qui donnait sur la place d'armes et la cour d'honneur. Je passais devant la petite duchesse de Bourgogne, délice du vieux roi et de la Maintenon. La petite duchesse souriait, une fleur à la main. À peine plus âgée que moi, elle ignorait à quel point sa mort était proche. Je frissonnais. C'était bien pire. Dans la salle à manger, aux boiseries blanches sous tachées de gris, dans un style funèbre. Versailles craque dans le silence de la nuit, au moment où ces fantômes se réveillent. J'avais peur. Seule une framboise pouvait me sauver. Je fermais les yeux. Le goût d'une framboise dans ma bouche d'enfant me rendait ma montagne. Versailles, sa cour et ses dragons disparaissaient. Je fermais les yeux, ravi en esprit. Je retrouvais le jardin de Dieu, le renard, le loup, le grand chat sauvage croisé un jour de chance. L'odeur du vent, l'odeur des cèpes, des myrtilles, des feuilles pourrissantes. L'odeur de la pluie, de la neige et du soleil m'emportait loin, très loin dans les Cévennes.
Alors ensuite, votre père vous a parlé du désert des Cévennes. Et c'était un mot qui sonnait étrangement, désert.
Dans la Bible, je savais ce que c'était que le désert avec un grand D. C'est pour ça que le jour où je cherchais un titre pour le roman dont on a tiré le film, je me souviens, nous marchions sous les Goules vers l'Ordre de Dieu, le jardin de Dieu. Louis marchait devant moi et je lui lançais des titres dans son dos. Et alors il disait non, non. Non. Et tout d'un coup, je dis « Les châtaigniers du désert ». Il se retourne, il dit « Formidable ». C'est plein de sens, le désert. Et vous savez, la première fois, quand j'étais comédienne, la première fois que j'ai joué à la Comédie française en tant qu'élève du conservatoire, c'était dans les chœurs d'Athalie. « D'un joug cruel, il sauva nos aïeux ». Les nourrit au désert d'un pain délicieux. Alors là, tout d'un coup, j'étais chez moi. J'étais chez moi dans Racine, comme j'étais chez moi dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles. Et c'est un beau paysage.
Et voici ce qu'André Chanson nous dit des Cévennes dans la voix de Louis Velle.
Résister. Nous trouvons ici le mot qui nous livre le secret de nos Cévennes. Le mot qui est gravé sur la pierre de la tour de Constance et que le vent semble siffler sur les roches ou dans les herbes dures de nos hautes crêtes, par-delà le jardin de Dieu, sur les hauteurs de l'Aigoual et de la Fajolle. Le mot que l'on répète aux petits-enfants dans toutes les maisons de nos vallées. Le mot qui semble inscrit dans ce vallon et dans ce petit village. Résister. Et résister, c'est sans doute combattre, mais c'est aussi faire plus. C'est se refuser d'avance à accepter la loi de la défaite. Voilà l'exemple que nos Cévennes donnent à l'homme. Elles lui disent, par toute leur structure, par toute leur histoire, par toute leur humanité, que résister, c'est d'abord ne pas s'arrêter à la persécution, ni à la calomnie, ni à l'injure. Puis, s'il le faut, que c'est combattre. Et puis, vainqueur ou vaincu, que c'est résister quand même, c'est-à-dire rester semblable à ce que l'on est jusque dans la défaite et jusque dans les fers.
Il y a tous ces textes magnifiques, mais il y a aussi ces illustrations, ces photos somptueuses et avec lesquelles on adhère à la terre des Cévennes et on comprend les mots grâce aussi à la vue des photos.
Ah oui, jamais je n'aurais pu écrire ce texte qui ne légende pas les illustrations. J'aurais pas pu l'écrire et être emportée par l'enthousiasme si je n'avais pas vu le travail de Jean-Louis Aubert, qui s'est levé à 4 heures du matin pour aller chercher des couleurs improbables, merveilleuses, ce que j'appelle le ciel d'un bleu théologique. Et c'est un être d'un grand talent, d'une grande modestie, fort agréable de relation en tant que partenaire. Et nous avons travaillé main dans la main, et c'est un bonheur d'avoir rencontré ça, parce qu'on était toujours d'accord. On a eu du mal à construire les choses et puis tout d'un coup, ça a été formidable.
Page 46 du livre « Cévennes, de la mer à la lune » paru aux éditions Alcide, il y a la superbe photo du tombeau d'André Chanson. Et la légende qui accompagne ce texte, Frédéric Hébrard, vous nous lisez cette légende maintenant.
Sur notre victoire ou sur nos tombeaux, il y aura toujours des troupeaux pour monter à la montagne chaque fois que l'été sera revenu.
Frédéric Hébrard, vous écrivez « Mes parents dorment maintenant sur la montagne, face au levant ». Le tombeau de vos parents, c'est un lieu de transmission avant tout ?
Oui, toute la montagne est un lieu de transmission, mais particulièrement ce point-là. On n'est pas triste quand on y va, on est recueilli, on a le sentiment d'une continuité, et puis c'est un très très beau paysage que l'on voit du reste dans les châtaigniers du désert, un petit peu dans le brouillard, mais c'est beau aussi. Et quand il fait très beau, moi je dis, vous regardez vers l'ouest, vers le levant, vous voyez Rome, Jérusalem et la Mecque.
Il y a aussi ces très belles phrases que vous nous confiez.
Pendant longtemps, je n'ai pas osé parler des Cévennes parce que pour moi, c'était le royaume de papa. Et puis un beau jour, je me suis rendu compte sur le tombeau, justement, que j'étais devenue la mémoire et qu'il fallait que j'assume cette mémoire. Il ne faut rien perdre de la douleur, il ne faut rien perdre non plus de la grâce. Et avant de partir, il faut tout transmettre à ceux qui nous suivent, tout ce qu'on peut emporter les mains vides. Il y a longtemps que nous ne gardons plus les bêtes dans ma famille, mais depuis mon père, nous sommes devenus bergers des mots. Du côté de ma mère, le premier qui osa s'exprimer à voix haute fut Félix Mazoric, le fils d'une fileuse et d'un tailleur d'habits de Valrhogue, qui fut spéléologue, paléontologue, archéologue et enfin conservateur des musées de Nîmes. C'est son goût du savoir qui poussa ma mère vers l'école des Chartes, où elle devait rencontrer mon père et l'amour. Nous écrivons, de père en fils, ou plutôt en ce qui me concerne, de père en fille, de mère en fille. Depuis 4 générations, Félix, André et Lélette, Frédéric, puis Catherine.
Catherine est là avec nous. Alors, cette transmission, Catherine, c'est des fois un poids.
Ça peut paraître un poids, ça peut être un poids. En ce qui me concerne, étant donné que cette transmission, ce sont les mots et que les mots, c'est l'aventure, c'est l'imaginaire, c'est le voyage. Je n'allais pas m'en plaindre. Et quand la transmission côté maternel, ce sont les Cévennes, la Provence, la Camargue, des endroits que j'adore, où je me sens tellement bien, non, ça n'est pas un poids.
Catherine, vous aussi, comme votre mère, vous vous recueillez devant ce tombeau ?
Oui, on s'y recueille, mais pas comme dans une image consacrée où on ferait le signe de croix, où on se tairait. On parle, on se raconte, on dit ce que l'année écoulée nous a apporté de bien, le plus souvent, de moins bien parfois. On se réjouit avec eux comme s'ils étaient là, Daddy et Lélette, mon grand-père et ma grand-mère, puisqu'ils sont sous la même pierre, dans ce même bel endroit. Et c'est plus un sentiment de partage pour moi que de recueillement. On leur dit « Tiens, tu vas être content, il m'est arrivé ça. » Et j'aime bien cette façon de procéder.
Mais cet héritage, on l'accepte d'emblée ou on met du temps avant de l'accepter ?
Mais on ne s'en rend pas compte. Ce sont les gens qui nous parlent d'héritage. Alors à force d'entendre ça, on se dit « Tiens, il y a un héritage. » Et alors on dit « Oh là là, c'est les grands-parents. » Alors oui, ça peut paraître sombre et difficile et un poids, comme vous disiez tout à l'heure. Mais on baigne là-dedans. L'immersion a été totale. On est imprégné totalement de cette vie, de ce contact avec les mots, avec la littérature, avec les auteurs, avec la création, avec l'imaginaire. Donc on rentre là-dedans, je parle pour moi en tout cas, spontanément.
Cet héritage se fait dans des lieux spécifiques, au travers d'une histoire particulière. Est-ce que cela ne vous coupe pas et ne vous empêche pas de vous tourner vers l'universalité ?
Ah non, je trouve au contraire que c'est une forme d'universalité. Cet héritage n'est pas un héritage circonscrit au nom des gens de la famille, aux défunts, au présent. Étant donné que nous sommes tous captés par la nature humaine, par le monde qui nous entoure, c'est complètement universel. Ça n'est pas quelque chose qu'on garde jalousement dans sa cassette pour soi. C'est une chose qui nous a été donnée, qui fait partie du monde dont on fait partie. Et en continuant ce travail d'héritage, on va dire, de création et d'écriture, on s'inscrit, nous aussi, dans le monde pour d'autres gens qui vont nous connaître aussi. Donc, il n'y a pas d'enfermement et de refermement. Au contraire, c'est un grand geste large.
Alors, pour ceux qui, comme vous, ont la chance de jouer et de transmettre avec les mots, avec la langue, quelles sont les idées essentielles que vous souhaitez transmettre ?
Je ne sais pas si ce sont les idées essentielles qu'André Chanson aurait voulu transmettre à sa petite fille. Moi, je sais que ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est curiosité, humour, respect, travail. Et puis tout ça, ça fait quelque chose qui peut changer sans cesse de forme, de goût, de genre. Mais je pense qu'avec ça, oui, le monde qui nous entoure, le monde et la nature humaine.
Ces lieux ont été adopté par vous, Louis Veil. C'est une adoption, en quelque sorte. Vous n'étiez en rien Cévenol.
En rien du tout. Absolument pas. Non, vous savez, j'ai eu la chance de découvrir ce pays étonnant au bras de ma fiancée, ce qui lui apportait, si je puis dire, une vertu supplémentaire qui tenait à la nature même de Frédéric, que je fréquentais déjà depuis quelque temps. Et vous savez, je parcours ce pays depuis un peu plus de 50 années. Je suis loin de l'avoir épuisé d'abord, mais il m'apporte toujours, plusieurs fois par an, puisque à différentes saisons, j'ai réussi à m'incruster dans le paysage. Et quand on connaît la difficulté d'accès de notre maison, on comprend que je puisse parler d'incrustation. Et je suis toujours ébloui, émerveillé, étonné par la variété. Justement, nous sommes amenés ces temps-ci à parler des Cévennes qui figurent largement dans le livre dont il est question et dans le film que nous avons fait. Frédéric étant l'auteur et François et moi, nous sommes les collaborateurs pour le scénario.
Et interprète.
Interprète aussi, oui.
En ce qui vous concerne, oui.
C'est pour ça que je peux dire que j'ai nagé dans le bonheur, puisque le bonheur est une rivière Cévenole. Et que j'ai tourné un film tiré d'une œuvre d'André Chanson qui est l'Auberge de l'Abîme. Dans cet abîme où coule le bonheur, j'ai eu l'occasion d'y nager dans des circonstances pour l'histoire dramatique, pas pour moi. Mais je suis sans cesse en alerte pour vérifier les raisons substantielles de cet émerveillement. Il n'y a pas de lassitude. Et je voulais parler de la diversité de ces paysages. C'est-à-dire, dans le film, ce sont des paysages de forêt, principalement des paysages boisés. Et dans le livre de Frédéric, Les Cévennes, de la mer à la lune, on voit d'autres aspects. C'est-à-dire qu'au haut de ces montagnes qui dévalent très brutalement du côté de la Méditerranée, après, ce sont comme des vagues, une espèce de houle terrestre que représentent les Causses, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un autre aspect qui est entre la désolation à première vue et au contraire une intensité pour le recueillement, pour le retour à soi-même qui est stupéfiante. C'est vraiment des choses qui... Pourquoi est-ce que ces terres qui semblent arides, desséchées, sont au contraire fertiles et le deviennent même aujourd'hui, car il y a 50 ans, il y avait pas encore sur les Causses, par exemple, des espèces de territoires de blé, souvent qui sont dans des dépressions occupées autrefois par les eaux, et où on a aujourd'hui des récoltes superbes. Non, c'est un pays, pour moi, d'émerveillement. Puis alors, je ne parlerai pas des champignons, parce que c'est quand même quelque chose qui tient une place importante, n'est-ce pas ? Les champignons, la châtaigne, ça c'est vraiment la Cévennes, si je puis dire. C'est-à-dire une terre qu'ils ont conquise, les hommes, n'est-ce pas ? Ils étaient obligés de la modeler, de la traiter en gradins pour pouvoir y faire de la culture. Et quand on voit des photos, j'allais dire des premiers temps de la photographie, et qu'on représente la vallée de Valrhoc ou tout ça, c'est un absolu désert. Il n'y a pas les forêts que nous voyons aujourd'hui. Les eaux emportaient tout. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent les Gouales, emportaient tout. Et ils relevaient chaque année, ils refaisaient les bancelles, les terrassiers, pour arriver à la culture. C'est un peuple accroché à son pays. C'est pour ça que la guerre des Cévennes représente quelque chose de très cruel. Ça n'était pas une guerre entre catholiques et protestants de Cévennes. C'était les officiers, les hommes du roi qui venaient dans les chaumières, qui les brûlaient, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas menaçants pour le roi. Au contraire, d'ailleurs, c'était... Ils avaient en plus un goût profond de révérence pour le roi. Et c'est précisément le roi qui est venu chez eux brûler, détruire, massacrer les gens.
Après cette évocation historique, votre fille, Catherine Vell, va maintenant mettre en mots sa propre description des Cévennes.
Le lendemain matin, le pays se réveilla dans un brouillard gris qui bâchait le haut des montagnes. Un toit vaporeux, fluctuant mais infranchissable, semblait s'être étendu sur la vallée, donnant au versant sombre une lueur étrange de fond d'aquarium. Le soleil peinait à déchirer le ciel houleux, et la pâleur du jour accentuait encore l'impression de fin du monde qui pesait sur toute la montagne. On voyait loin, très loin, et tous ces épaulements de vieilles montagnes dominaient les contours étranges d'un monstre immense et assoupi. Au plus loin que portaient les regards, les formes floues des montagnes se mêlaient aux nuages matinaux, nuées grises, blanches et bleues, turbans de crème fraîche, et enfin le soleil, comme un roi, tout en haut, étalant ses pétales de lumière.
André Chanson lui-même a écrit, pour décrire les Cévennes, les mots suivants, lus par Louis Vell.
L'égoile se soulève comme une épaule de Dieu couchée sur le flanc. Le ciel souffle de tous côtés sur cette coupole vêtue d'herbes rases, sur ce promontoire hercynien porteur de la rose des vents. Le nord et le midi, le vent haut et le vent marin luttent sur ce dôme à main plate. Vainqueurs, vaincus, gorgés de gel ou de pluie, nettoyeurs du ciel ou traîneurs de brume.
Frédéric Hébrard, pourriez-vous prêter votre voix à votre propre mère, Lucie Mazoric?
En montant, l'air devenait léger. Nous le respirions avec délice et nous voyions la belle lumière du jour venir vers nous. Après les châtaigniers, les hêtres et les sapins, une prairie rase annonçait le sommet de l'égoile tout proche et le lever du soleil. Grand-père nous laissait le temps de nous détendre dans la lumière, d'admirer comme la terre est ronde, de voir au loin les causses et les cassures de leurs plateaux, les forêts gauloises d'air de côte et tout au loin la barre brillante de la Méditerranée. Peut-être au cours d'une de ces promenades ai-je croisé sans le connaître le petit André Chanson venu avec ses camarades par la route du Vigan, voir le soleil se lever sur l'égoile, notre Olympe commun. Il y a quelque chose de très émouvant pour moi, parce que ces émotions de ma mère petite fille montant avec son grand-père le tailleur d'habits de Valrhogue, je les ai éprouvées. Catherine les a éprouvés, ses frères Nicolas et François les ont éprouvés, leurs enfants les ont éprouvés, leurs femmes les ont éprouvés, Louis bien sûr. Et tout ça, c'est un partage entre générations qui a quelque chose de magique.
Oui, cette très belle idée de transmission et tout cet attachement à cette terre, à cette histoire particulière, comment vous, nouvelle génération, vivant en 2010, vous situez-vous par rapport à ces guerres de Camisa, par rapport à toute cette transmission littéraire? Où trouvez-vous votre liberté, Catherine Vell, par rapport à cette histoire familiale, historique, protestante?
Alors, j'ai envie de vous dire, Virginia, que l'essence même des Cévennes, c'est la liberté. Il n'y a pas de pays plus fort, plus combatif pour la liberté. Et j'ai l'impression, quand vous parlez des écritures, celles de mon grand-père, celles de ma mère... Je ne cite pas celle de mon père, puisqu'il n'est pas tout à fait cévenol, même s'il l'est
d'adoption.
Par les chemins mille fois plus que nous tous. C'est un découvreur de sentiers, de belles promenades. J'ai envie de dire que c'est comme si on était devant le même paysage et qu'on ait un tableau à faire. On va peindre exactement le même endroit. À chaque fois, ça sera vrai. À chaque fois, vous direz « Oh, là, celui-là, alors, c'est bien ça ». Et puis vous passez au tableau suivant ou au livre suivant qui parle de la même chose, du même climat, des mêmes lieux. Et vous dites, ah oui, ça, c'est vraiment ça. Donc je pense que nous sommes peut-être aidés par la toile de fond, le personnage paysage que sont les Cévennes.
Et il ne faut quand même pas oublier que la Révolution française n'est pas née dans les Cévennes, mais elle y a été conçue, parce que c'est quand même le premier pays en France où la liberté de conscience a été revendiquée au péril de la vie. Et c'est une chose qui frappe beaucoup les étrangers qui viennent du nord de la Loire. Et c'est un pays très particulier. Papa l'a merveilleusement écrit dans Résister et puis dans d'autres textes où il s'émerveille sur le goût de la liberté.
Il y a une très belle phrase que l'on trouve en finale de ce livre « Cévennes, de la mer à la lune » paru aux éditions Alcide. Une très belle phrase de votre père. « Le temps passe et nous restons tous fidèles à nous-mêmes, semblables à ce que nous sommes, comme le souhaitait mon père dans son discours de septembre 1935. » Vous nous rappelez cela, Frédéric Hébrard.
Oui, moi j'étais petite en 1935, mais je me souviens de l'émotion au musée du désert quand il a fait son discours « Résister » qui était prophétique, puisque c'était en 1935. Il expliquait déjà ce que devrait être une résistance, c'est-à-dire rester fidèle à soi-même jusque dans la défaite et jusque dans les fers. C'est formidable.
Qu'est-ce que cette histoire vous a apporté dans votre construction personnelle, Louis Vel? Cette histoire cévenole, l'histoire de cette terre, l'histoire de cette résistance multiple à travers les siècles?
L'horreur des persécutions, l'injustice, l'horreur des supplices, qui est autre chose que c'est une manière honteuse d'éliminer les individus, le supplice. Donc je suis très profondément révolté. Je l'étais déjà avant d'ailleurs, mais j'en avais une illustration plus grande, plus immédiate en entrant dans la famille Chanson. Mais en même temps, une pacification est venue. Elle est venue, Frédéric le rappelle dans ses livres, elle est revenue par la présence des petits-enfants juifs que les Cévenols, catholiques ou protestants, ont été amenés à protéger. C'est-à-dire que ce pays dans lequel les protestants et les catholiques se parlaient à peine, tout d'un coup, le pasteur et le curé se sont unis pour dire qu'est-ce qu'on fait à propos de ces enfants. Et à partir de là, une conversation s'est nouée qui débouche progressivement, surtout avec les nouvelles générations, vers un œcuménisme vécu et non pas importé.
Et cela est capital et central dans la dernière réalisation de l'un de vos romans, Les Châtaigniers du désert.
Absolument. Il n'y aurait pas eu d'histoire, parce que comment aurais-je pu expliquer le fait que Jésus a rassemblé le curé, le pasteur, d'abord, parce qu'après le curé et le pasteur, ça a été plus difficile pour les populations qui avaient des traditions familiales et séculaires de ne pas se parler. Mais c'est venu merveilleusement. Je n'aurais pas pu écrire cette histoire si l'enfant juif n'était pas venu du fond de l'Ancien Testament demander qu'on l'aime, qu'on le sauve, qu'on le protège. Et comme le curé, comme le pasteur avaient dû lire les paroles de Jésus disant « Ce que vous faites à cet enfant, vous le faites à moi-même », il n'y a pas eu de problème à ce moment-là. Et vous savez, quand j'ai écrit « Les châtaigniers du désert », le livre, il y avait un pasteur à Valrogue et un curé. Ils sont devenus mes meilleurs amis. Elle, le pasteur, et lui, le curé. Un jour, ils sont venus déjeuner à la maison ensemble. Et quand ils sont partis avec Louis, on a dit « On a reçu le frère et la sœur ». Et c'était très beau, parce que c'était impossible dans mon enfance. C'était impossible, et tout d'un coup, le miracle de l'acceptation de l'autre, de la différence. Je pense que c'était possible parce que vraiment on a beaucoup souffert des persécutions dans les Cévennes, et que le cœur était prêt à s'ouvrir. Mais ça a quand même mis près de 3 siècles. On a eu une petite fille juive pendant l'occupation à la maison, une grande jeune fille du reste. Mon père avait un réseau pour envoyer des gens en difficulté dans une ferme du Mont-Lozère. Il suffisait de dire « Je viens de la part de Monsieur Desbressous », c'est le nom notre maison camisarde. Louis dit « les orteils de l'égoual sont dans la bergerie » et il a raison.
La transmission de la foi s'est faite autrement, par le sens du social, comme vous le disiez, par le sens de la résistance, de la responsabilité du citoyen, puisque
mes
votre père s'est illustré dans la résistance.
Oui, mes parents étaient des protestants sociologiques. J'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire, mais enfin, ils étaient comme des juifs qui vont plus à la synagogue et qui mangent du porc. Et donc, ils étaient toujours protestants. Du reste, papa le dit, même détaché de sa foi, je lui suis toujours resté fidèle. Mais c'était mémé qui m'emmenait au temple en douce. Et mon père avait dit à sa grand-mère, il l'écrit merveilleusement dans le Chiffre de nos jours, croyant la poignarder dans le dos, « Je ne crois plus au Dieu parce que je sais trop de choses. » Et il a été étonné qu'elle lui dise, « Ça n'a pas beaucoup d'importance, il te retrouvera, il saura bien te retrouver un jour. » Et je dois dire qu'il l'a retrouvé. Et c'était au moment de son départ pour aller le retrouver. Et la foi était là. Et c'est peut-être pour ça que, en l'an 2000, je me suis fait baptiser.
Oui, parce que le baptême a eu lieu donc en l'an 2000 et il s'est déroulé en comité restreint. Vous y étiez, Catherine ?
Non seulement j'y étais, mais je suis la marraine catholique de ma maman jeune protestante. Je crois que j'en ai profité pour lui offrir une petite timbale.
En argent.
Ça se fait.
Mmh.
Et
un baptême adulte, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant.
C'était très émouvant et c'était très simple. Ça me paraissait extrêmement naturel. Et à l'époque, j'avais près de moi une petite chatte qui m'a quittée au printemps, qui s'appelle Sevenol. Et cette petite chatte, comme le temps n'a pas permis que le baptême ait lieu à l'évangélique, c'est-à-dire au-dessus de la maison, dans une cuve, dans un torrent, enfin quelque chose de très beau, très poétique. Le baptême lui-même a eu lieu à la maison. Et dès que les choses ont été faites, le soleil est revenu. Donc nous sommes tous allés marcher dans un terrain détrempé. Et la petite chatte Sevenol nous a suivis sur près de 2 kilomètres dans la montagne, dans un sentier très pentu, avec de la caillasse, avec les vieilles pelouses de l'hiver d'avant. C'était très joli. Ça aussi, c'était une forme de partage. Vous voyez, c'était finalement biblique puisqu'il y avait aussi des animaux.
Oui, et ma marraine ici présente était accompagnée de mon parrain qui est l'aîné de nos petits-enfants, Paul.
Quel âge a-t-il ?
Ben Paul, il
88,
avait...
88, il est né. Il est né en 88, non. Donc il a 22 ans.
Mais à l'époque, il avait 15 ans.
Et il avait le droit et... On le voit dans Les Châtaigniers du désert. Et il joue le garçon un peu à l'ouest qui est en communication avec la création, les animaux, la montagne et qui sent les choses. Lui m'a donné un petit Christ qui était la première image taillée qui entrait dans la maison.
Et Frédéric disait, pour un baptême, il faut quand même des dragées. Alors elle est allée sur les Champs-Élysées chez Martial. Elle est entrée dans la boutique. « Ah, Madame Hébrard, on est content de vous voir. C'est pour un baptême, c'est pour un mariage. » Et elle dit « C'est pour un baptême. »« Oh, petit garçon ou petite fille ?»« Une petite fille, » dit Frédéric. « Oh, elle doit être mignonne.
» Alors, vous indiquez, il n'y avait que des catholiques, un juif, un franc-maçon à ce baptême protestant. Et nous avons un petit signe amical envers votre pasteur baptisant ce jour-là, Claudette Marquet, que nous connaissons toutes les deux.
Oui, et qui est une personne tout à fait merveilleuse, qui compte dans ma vie. Et c'était incroyable de simplicité, de beauté, de piété et puis de bonheur.
Vous dites, avec cette atmosphère, avec tout ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai pensé à la dernière phrase écrite par mon père, Les Hommes de la Route.
Oui, c'est le plus beau jour de l'année. Mais c'est souvent le plus beau jour de l'année dans les Cévennes, malgré les intempéries qui peuvent être extrêmement violentes et cruelles.
Eh bien, je vous souhaite à tous les trois que ce soit toujours le plus beau jour de l'année. Merci d'avoir partagé ce temps de réflexion, de partage de paroles autour des micros de Canal Académie. Merci.
Merci.
Merci.